Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. C'est Franck, et je suis ravi de vous retrouver pour cette 232e émission d'À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie et l'astronautique chaque troisième dimanche du mois, de 13h à 14h. Une émission qui a pour marraine Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et pour parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler d'Artemis 2, cette mission spatiale qui a pour vocation de ramener l'homme sur la Lune. Initialement, cette mission devait être consacrée au lancement de la mission, mais vous le savez, le calendrier en a décidé autrement, et le vol a de nouveau été reporté. Alors plutôt que de remettre totalement le sujet à plus tard, j'ai choisi de vous proposer de parler d'Artemis 2 d'une autre manière. Autrement dit, non pas seulement à travers la technique ou le compte à rebours du lancement, mais à travers ce que représente une telle mission pour celles et ceux qui rêvent de la vivre au plus près. Car assister au départ d'une mission lunaire, ce n'est pas simplement voir une fusée décoller. C'est aussi une aventure humaine, une attente, une préparation, une émotion, et pour certains, un véritable voyage vers l'histoire spatiale qui est en train de s'écrire. Le thème de cette émission s'intitule donc Artemis 2, cap sur la Floride pour le grand retour vers la Lune. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomad Aventure, passionné d'exploration spatiale, qui va nous raconter ce que représente aujourd'hui un tel événement et comment on peut se préparer à vivre au plus près le retour des astronautes autour de la Lune. Fabrice Deltaglia, bonjour.
Bonjour Franck.
Merci d'être avec nous pour cette émission. Avant de parler d'Artemis 2, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. D'où vient cette passion pour Apollo, pour la Lune et plus largement pour l'aventure spatiale ?
Ah, cette passion vient de loin, vient de l'enfance, hein, comme je pense beaucoup de passionnés. Moi, je suis né en 68, donc je n'ai pas vraiment eu la chance de voir les lancements et les alunissages du programme Apollo, même si probablement bébé à un an, mes parents ont dû me mettre devant la télé au moment de l'alunissage d'Apollo 11 en 69, mais je n'en ai aucun souvenir. Je pense que mes premiers souvenirs sont du programme, enfin sont de la mission Apollo Soyuz, donc en 75, donc j'avais 7 ans, et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'espace, avec ensuite le programme des sondes martiennes, des robots martiens Viking, qui a envoyé les premières extraordinaires images de la planète rouge, et puis ensuite la fusée Ariane, le programme Navette, les premiers cosmonautes, astronautes français dans les années 80, etc. À 10 ans, je rêvais d'être astronaute d'ailleurs, et j'avais eu la chance de remporter un concours organisé par le magazine pour enfants Pif Gadget, qui en 79 avait fait une série estivale sur l'espace à l'occasion des missions Pioneer et Voyager. Il s'agissait d'imaginer mettre un petit dossier de photos à bord d'une sonde qui irait explorer l'univers lointain et qui pourrait trouver par une civilisation extraterrestre éventuelle, un peu à l'image du disque que Carl Sagan avait mis sur une sonde à l'époque. Et j'avais remporté ce concours, et le premier prix que j'avais donc gagné, c'était un voyage d'une semaine dans ce qui était à l'époque l'URSS, et dont le point d'orgue était la visite de la Cité des Étoiles, c'est-à-dire la base d'entraînement, encore très secrète à ce moment-là, la base d'entraînement des cosmonautes soviétiques et de ceux qui voyageaient avec eux, située à une centaine de kilomètres de Moscou. Et donc j'avais fait ce voyage tout seul, sans mes parents, en avril 1980, donc avant même qu'il y ait un Français qui pénètre à la Cité des Étoiles et qui s'y entraîne. Ce sera Jean-Loup Chrétien quelques mois plus tard. Voilà, donc ça a été une passion d'enfance, jusqu'à pour début d'adolescence. Après, j'ai eu d'autres centres d'intérêt, je m'en suis un peu éloigné, j'ai continué à suivre, mais de façon moins assidue. Et puis cette passion est revenue depuis quelques années, à la fois parce que devenu père, j'ai voulu la transmettre à mes enfants, Et mon fils en particulier, qui a 10 ans, est à nouveau mordu, passionné. Je l'ai envoyé sur plusieurs voyages sur ce thème, dont à la Cité des Étoiles. Et puis, parce qu'effectivement, on vit une nouvelle, peut-être pas un nouvel âge d'or, mais enfin un nouvel engouement, un nouvel horizon des programmes spatiaux, notamment avec le programme Artemis, mais pas seulement, avec l'ISS, etc. Donc, depuis quelques années, je m'y réintéresse beaucoup. Et puis, surtout, j'organise donc des voyages sur ce thème. Depuis 2019, dans le cadre de mes fonctions de directeur général, donc de tour opérateur Nomad Aventure, qui est un tour opérateur spécialisé dans le voyage d'aventure, comme son nom l'indique, c'est-à-dire plutôt de randonnée, de pleine nature, d'outdoor, de trek, etc., de safari, mais au sein duquel j'ai créé une petite gamme de voyages pour des gens comme moi, tout simplement, une gamme de voyages sur le thème de l'espace qui a démarré en 2019 et qui compte maintenant quelques voyages et quelques départs, dont là, que nous allons évoquer après.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer ce type d'expérience avec l'agence Nomade Aventure Fabrice Deltaglia?
Oh ben, tout simplement, d'abord que ça n'existait pas, étonnamment. Or, je me disais que si moi j'avais envie de faire ce type de voyage, d'aller sur des sites liés à l'histoire de la conquête spatiale, alors en Russie d'abord, puis aux États-Unis, en Guyane, ou à l'actualité de l'espace, pour assister à des lancements par exemple, si moi j'avais envie de faire ça, bah, je ne devais pas être le seul, qu'il fallait évidemment trouver, enfin faire connaître l'existence d'une offre aux gens que ça intéresse, mais que c'était étrange que personne, aucune agence de voyage en France, à ma connaissance, enfin en France c'est sûr, bah, même en Europe, j'ai pas connaissance d'une autre agence. Même à certains égards aux États-Unis, ça n'existe pas vraiment. C'est vrai que c'est un tout petit secteur, mais tout simplement, ça n'existait pas. On a d'ailleurs eu un prix de l'innovation du tourisme en 2022 pour cette toute petite gamme. Et donc déjà, quand ça n'existe pas, alors que je pense qu'il y a un public, eh bien c'est intéressant. Et puis par ailleurs, comme tour opérateur, on cherche toujours à prouver quelle est notre valeur ajoutée, quel est l'intérêt de passer par un tour opérateur plutôt qu'organiser un voyage par soi-même. Et donc, on est amené à imaginer des voyages les plus difficiles possibles à organiser. Alors là, on est servi, hein, vous allez comprendre. C'est-à-dire un caractère exclusif, complexe en termes d'organisation, etc. Alors, c'est le cas de certains voyages d'aventure très soutenus, c'est le cas d'un certain nombre de voyages d'exception accompagnés par des experts, et puis c'est le cas donc de ces voyages spatiaux. Voilà. Donc j'ai voulu à la fois me faire plaisir et faire plaisir à des passionnés qui ne trouvaient pas jusqu'ici d'offres pour faire ce type de voyage.
Fabrice Deltaglia, je rappelle que vous êtes directeur général de Nomade Aventure et passionné d'exploration spatiale. Pour le grand public, Artemis 2, c'est peut-être juste un lancement de plus, mais pour vous, pourquoi est-ce au contraire un moment historique?
Bah, déjà, je crois qu'aujourd'hui, le grand public, il en a encore très peu entendu parler du programme Artemis en général et d'Artemis 2 en particulier. Je suis étonné, alors ça a un tout petit peu amélioré ces toutes dernières semaines, mais au moment où je disais autour de moi que j'allais accompagner début février, c'était la date initialement prévue, un voyage permettant d'assister au lancement de la mission Artemis, ça ne disait rien à personne. Et quand je précisais que c'était la première mission lunaire habitée, la plupart des gens me regardaient avec des yeux ronds, manifestement, la grande majorité des Français, voire peut-être des autres pays, y compris aux États-Unis, n'est guère au courant qu'il y a un programme lunaire actif et qu'on va y renvoyer des astronautes. Au point qu'on me disait qu'on n'en avait pas entendu parler, qu'on me demandait si du coup les astronautes allaient se poser sur la Lune, c'est pas le cas sur Artemis 2, enfin le niveau de méconnaissance est très élevé. Alors, ça s'est légèrement amélioré depuis que les lancements devaient avoir lieu début février, puis début mars, ce qui a donné l'occasion aux chaînes de télé, aux journaux de commencer de faire des sujets pour éclairer le public sur ce programme et sur l'imminence d'un retour de l'homme autour de la Lune, puis sur la Lune. Alors effectivement, pour autant, c'est donc étonnant, alors que c'est en effet une mission historique. Historique pourquoi? Parce que ça fait depuis 1972 que l'être humain n'a pas quitté l'orbite terrestre proche. Puisque c'est le 14 décembre 1972 que le dernier astronaute a quitté la Lune, c'était Gene Cernan, et qu'on n'est plus jamais revenu autour de la Lune, ni même qu'on a quitté l'orbite terrestre. Aujourd'hui, on est très expérimenté. Les Soviétiques, d'abord, ont construit des stations spatiales, Salyut, puis Mir, qu'ils ont occupées pendant des durées considérables. Puis la communauté internationale, enfin une grande partie, les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon, le Canada ont construit la station spatiale internationale, mais ça tourne à 400 kilomètres en moyenne autour de la Terre. Donc c'est vraiment la banlieue proche. La Lune, c'est pas loin de 400 000 kilomètres. Donc vous voyez, c'est 1000 fois plus loin. Ça n'a rien à voir en termes de complexité, de risque, etc. Et donc voilà, ça fait plus de 50 ans, bientôt 54 ans, qu'on se contente, qu'on va très souvent dans l'espace, qu'on y passe du temps, que l'espace est occupé en permanence d'ailleurs depuis plus de 20 ans à bord de l'ISS, mais qu'on n'a pas quitté cette banlieue proche de la Terre, donc Artemis. Le programme Artemis, c'est le retour de l'être humain autour, puis sur la Lune. Artemis 2 donc n'a pas vocation à se poser sur la Lune puisque il y aura des astronautes mais la fusée n'emporte pas d'atterrisseur, l'équivalent du LEM, du module lunaire du programme Apollo, donc d'appareil pour descendre de l'orbite lunaire vers la Lune. L'atterrisseur n'est pas encore prêt et de toute façon là c'est une répétition pour l'instant. Néanmoins, voilà, il y aura 4 astronautes qui vont faire le tour de la Lune. Dans une orbite d'ailleurs très excentrée, très elliptique, ce qui va les amener beaucoup plus loin de la Lune et donc de la Terre qu'on n'est jamais allé, ce qui a permis à certains complotistes, quand Thomas Pesquet a déclaré ça dans une interview télé, de dire « Ah, vous voyez, on n'est jamais allé sur la Lune », en fait, il a dit qu'on n'était jamais allé aussi loin. Bon. Et ce n'était pas ce qu'il voulait dire, c'était beaucoup plus précis, l'orbite était plus excentrée, donc va amener les hommes plus loin que nous ne sommes jamais allés. Voilà, donc faire le tour de la Lune et revenir, une mission de 10 jours en principe, avec une nouvelle fusée, une nouvelle capsule, et cela pour préparer des missions futures qui, elles, ont vocation à se poser sur la Lune et, qui plus est, à y rester.
Qu'est-ce qui vous touche le plus, Fabrice Deltaglia, dans cette mission? Le retour de l'humain autour de la Lune, l'héritage Apollo ou l'idée qu'on ouvre un nouveau chapitre?
C'est un peu tout ça à la fois. Le spatial, sa justification a toujours posé question, et c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que la dépense mérite d'être faite alors qu'il y a tant de défis sur Terre? Est-ce que la Lune ou Mars, qui est le deuxième objectif derrière la Lune, etc., valent le prix que ça coûte, etc. Ça peut se démontrer ou se discuter sur un plan rationnel, mais sur un plan plus philosophique ou plus symbolique, moi je pense que cela correspond à une aspiration profonde de l'homme de toujours aller voir plus loin, de toujours explorer plus loin. C'est vrai, pas toujours pour le meilleur. Les explorations sont souvent devenues des colonisations. Parfois, ces colonisations ont été synonymes de destruction, mais pas seulement. En tout cas, c'est une composante de l'esprit humain que d'aller plus loin, que de rêver, que de découvrir. Je pense aussi que ça peut motiver en tout cas des nouvelles générations à s'intéresser aux sciences, à, je l'espère d'ailleurs, préférer la science au complotisme, à l'idéologie, au dogmatisme, à la fausse science, etc., qui est sortie en plus des limbes aujourd'hui, hein, puisqu'elle est quand même bien représentée par d'éminents leaders politiques mondiaux, et que donc ça a cette importance, ça a cette importance symbolique. Voilà. Après, en ce qui me concerne aussi, je rêve de voir un lancement aussi spectaculaire que celui d'une telle fusée. Je n'ai pas vu de décollage de la navette spatiale, par exemple, qui devait être très spectaculaire. J'ai vu des décollages de Falcon 9, ce qui reste toujours spectaculaire et émouvant, surtout quand on sait qu'il y a des astronautes à bord. Ça change beaucoup le ressenti qu'on a lors d'un lancement. Mais c'est vrai qu'un lancement d'Artemis, qui est de la fusée plus exactement SLS, Space Launch System, qui a approximativement la taille et une puissance supérieure à celle de la fusée Saturn V du programme Apollo, Ça va être un spectacle extra unique, vraiment considérable. On s'en est déjà rendu compte lors du lancement d'Artemis 1, qui n'était pas habité, mais c'était la même fusée. Voilà, donc c'est un spectacle extraordinaire, c'est la perspective d'un nouveau chapitre. C'est, oui, c'est renouer avec l'aventure lunaire du programme Apollo des années 60 à 1972. C'est les perspectives scientifiques qui s'ouvrent derrière grâce à ce programme. Voilà, c'est tout cela. Je pense qu'il m'intéresse et qui intéresse les participants à nos voyages.
Vous êtes à l'écoute d'IDFM Radio et c'est À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et astronautique. Aujourd'hui, l'émission est intitulée Artemis 2 cap sur la Floride pour le grand retour vers la Lune en compagnie de Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. On marque une pause musicale et on se retrouve juste après pour parler de ce que l'on ressent vraiment lorsque l'on assiste à un lancement spatial en vrai. Voici DC's et Théodora avec Mélodrama.
Blessé, baisé.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes sur IDFM Radio dans l'émission À toi les étoiles chaque troisième dimanche de chaque mois, 13h-14h. Aujourd'hui, cette émission a pour thème Artemis 2 cap sur la Floride pour le grand retour vers la Lune avec Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. Fabrice Deltaglia, quand on assiste à un lancement en vrai, qu'est-ce qu'on ressent que la télévision ne transmet jamais? Le bruit, l'attente, la vibration, l'émotion?
Oui, alors déjà l'attente, comme vous dites, qui fait vraiment partie du spectacle. Pour l'anecdote, donc en 2022, j'avais déjà organisé un voyage pour assister au lancement d'Artemis 1, donc le premier lancement de cette fusée SLS. Et les deux premières tentatives de lancement ont été avortées à quelques minutes, quelques dizaines de minutes avant le lancement. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller à la troisième tentative qui a été la bonne. Et pour autant, moi-même, comme les voyageurs que j'accompagnais, mais qui m'accompagnaient, on a vécu une super expérience alors qu'on n'a même pas vu la fusée quitter le pas de tir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le suspense, la tension, on la ressent nous-mêmes, comme et encore plus quand on arrive sur place au Kennedy Space Center, tout autour de nous, de façon très très forte. Le compte à rebours, il commence plus de 48 heures avant. Il passe par de très nombreuses phases de tests, de vérifications, d'opérations diverses et variées. Il s'intensifie au fur et à mesure que les heures et les minutes nous rapprochent du lancement. L'un des premiers moments vraiment importants qu'on n'avait pas vécu lors d'Artemis 1, mais qu'on va vivre là lors d'Artemis 2, c'est la sortie des astronautes du bâtiment où on les prépare, où ils les revêtissent leur scaphandre, disons, de lancement. Il n'est pas un scaphandre pour sortir dans l'espace, mais pour en cas de dépressurisation de la capsule, et où ils embarquent à bord du van à l'époque ou des voitures aujourd'hui pour rejoindre le pas de tir. C'est déjà très émouvant. On sait que bah, c'est malgré tout ça reste risqué. Hein, l'espace, comme on dit, l'espace c'est compliqué, mais c'est aussi risqué. Il y a quand même eu de nombreux décès. Et chaque tir comporte des défauts et des problèmes qui sont analysés après coup. Mais il n'y a quasiment pas de tir 100% parfait. On a vu récemment, par exemple, le rapport de la NASA sur la mission à bord de laquelle se trouvaient deux astronautes qui testaient pour la première fois la capsule spatiale de Boeing. Et ce rapport a démontré que bon, on est passé très près de la catastrophe, qu'il y avait de très nombreux problèmes techniques et opérationnels sur cette capsule. C'est les astronautes dont ils sont connus parce qu'ils ont été soi-disant, entre guillemets, coincés à bord de l'ISS pendant plusieurs mois, parce que c'était un tout petit peu exagéré, on aurait pu les redescendre, mais c'est vrai que pas avec leur capsule qui présentait de nombreux défauts. Et tout ça, c'est vrai de tous les premiers de toutes les premières utilisations d'un nouvel engin spatial. Là, la capsule Orion que les astronautes d'Artemis ont utilisée a déjà volé, mais peu et par définition jamais avec des astronautes à bord. Donc ça reste différent. Elle va rentrer sur Terre à une vitesse qu'aucun engin spatial habité n'a jamais connue. Non pas à 28 000, mais à plus de 40 000 km/h, etc. Donc on sait que quand ils embarquent pour une aventure qui reste unique, que même quand c'est pas une première, ça reste unique. Et qui est très risqué. Et ensuite, au fur et à mesure des heures qu'il y a, et des minutes qui nous rapprochent du lancement, on a toujours ce décompte qui continue seconde par seconde, quand on est sur place avec évidemment le fameux compte à rebours qu'on voyait déjà à l'époque d'Apollo, mais aussi un commentaire en live qui commente toutes les phases, l'une des phases les plus critiques, qui d'ailleurs a provoqué déjà plusieurs fois le report du lancement d'Artemis, c'est le remplissage des réservoirs en oxygène et en hydrogène liquide, et phase extrêmement délicate, parce qu'il est très difficile de ne pas avoir de fuite. Enfin, c'est même quasi impossible, mais disons déjà difficile de ne pas avoir trop de fuite. Donc on prie quasiment, enfin en tout cas on croise les doigts pour que la fuite, pour qu'il n'y ait pas de fuite ou qu'elle soit la plus modérée possible. Et ensuite il y a encore tout un tas de phases, la communication entre la capsule et le sol, la fermeture de l'écoutille de la capsule, etc., etc. Et ça continue jusqu'à quelques secondes avant le lancement, jusqu'à 30 secondes avant le lancement. Il peut être annulé. Après, beaucoup plus près du lancement, il peut plus l'être, notamment parce que la fusée SLS décolle en partie avec des boosters à combustible solide, de la poudre en quelque sorte, hein, c'est des fusées à poudre sur le côté, qui donnent un supplément de puissance, et que les propulseurs à poudre, une fois qu'ils sont allumés, on ne peut pas les éteindre, donc la fusée décolle. Voilà, mais disons que le suspense dure jusqu'à quelques secondes du lancement. Donc vraiment, l'ambiance déjà en soi est très très forte. Et puis pendant tout ce temps-là, on a la fusée devant nous, relativement près. En tout cas, le voyage que nous proposons inclut la possibilité de voir la fusée le plus près qu'il est autorisé de la voir, depuis le site d'observation le plus privilégié possible, qui se situe à 5,5 km du pas de tir. Ça paraît beaucoup, mais c'est quand même assez peu. C'est juste de l'autre côté d'une baie qui se situe devant nous quand on est sur place. Et donc, on voit la fusée fumer, entre guillemets, parce qu'au fur et à mesure qu'on la remplit, etc., le fait que d'avoir des combustibles à moins de 250 degrés, ça provoque de la vapeur d'eau autour. Bref, donc tout ça est très, très spectaculaire, avec un suspense insoutenable qui dure plusieurs heures.
J'imagine bien, Fabrice Deltaglia, vous nous mettez l'eau à la bouche. J'imagine qu'après tout ça, eh bien, c'est le lancement.
Et ensuite, bien sûr, il y a le lancement lui-même qui est une libération en quelque sorte. Qu'est-ce qui dure le moins longtemps, hein, puisque forcément, au bout de quelques secondes, la fusée est déjà très haute. Donc, on va dire, on profite du cœur du spectacle du lancement pendant 30 à 40 secondes. Ensuite, si la météo est favorable, on peut continuer de la voir assez longtemps. On peut même voir la séparation du premier et du deuxième étage. On ne voit pas, on ne verra pas là sur Artemis le retour du premier étage comme on le voit sur les lancements des fusées de SpaceX dont le premier étage est récupérable. Mais on peut voir la séparation, etc. Et puis ensuite l'attente des informations pour s'assurer que la fusée et la capsule ont atteint l'orbite, ce qui est très rapide, hein, puisqu'il faut 8 à 9 minutes pour atteindre l'orbite terrestre. Voilà, donc c'est un spectacle total, à la fois par l'ambiance et aussi les gens qui sont autour. Il y a beaucoup de gens de la NASA, il y a d'anciens ou de futurs astronautes qui sont présents, ou des gens qui sont des astronautes actifs et qui espèrent avoir une place sur une future mission ISS, voire Artemis pour aller sur la Lune, etc. Donc on baigne dans une ambiance spatiale, une ambiance de passionnés, une ambiance de pros. Et voilà, tout en sachant qu'on vit une page d'histoire.
Fabrice Deltaglia est notre invité. Il est directeur général de Nomade Aventure, une agence de voyage. Vous nous avez expliqué dans la première partie de cette émission que vous proposez d'assister au lancement de la mission Artemis 2 en direction de la Lune. Pouvez-vous nous expliquer, Fabrice Deltaglia, comment se déroule le séjour pour vos clients?
Bien sûr. Alors, dans le fond, fondamentalement, les gens qui sont inscrits sur ce voyage, la vingtaine de personnes que je vais accompagner peut-être début avril, si le lancement est confirmé pour début avril, vient d'abord voir le lancement lui-même. Néanmoins, le voyage ne dure pas le temps du lancement, et c'est pas 24 heures, c'est pas un aller-retour. Pour une raison principale, c'est que il va être annoncé pour un jour donné, par exemple, admettons pour le 3 avril prochain, mais il pourrait avoir lieu le 3 avril, ou le 4, ou le 5, ou le 6. Ces dates ont d'ailleurs déjà été annoncées par la NASA, c'est-à-dire il y a plusieurs fenêtres de tir successives dans une plage de dates sur un mois donné. Ces fenêtres de tir sont calculées en fonction de nombreux paramètres, l'un des principaux relevant de la mécanique céleste, c'est-à-dire de la position respective de la Terre et de la Lune, pour minimiser le temps de trajet jusqu'au bon endroit pour la capsule en. Mais néanmoins, il y a plusieurs possibilités. Pourquoi la NASA se garde plusieurs possibilités successives, des jours les uns après les autres? D'abord pour une raison météo. Enfin, en gros, pour deux principales raisons, météo ou de problèmes techniques simples, on va dire. Météo, parce que bien sûr, on ne peut pas savoir 3 mois à l'avance ou même 15 jours à l'avance si la météo va être suffisamment favorable le 3, c'est dans les ou le 4, c'est dans les heures qui précèdent que une unité météo spécialisée de l'armée américaine en Floride va publier un bulletin qui donne un pourcentage de risque que les conditions de météo enfreignent les règles de sécurité. Et c'est exprimé en pourcentage. Donc, ce n'est pas du blanc ou noir, ce n'est pas oui ou non, c'est en fonction du pourcentage. Du coup, la NASA va décider de lancer ou pas. Les principaux problèmes, on va dire, qui puissent, les plus embêtants, on va dire, sont bien sûr les tempêtes, les ouragans, etc. Mais dans une moindre mesure, la foudre. Voilà, les orages, quoi, enfin, notamment. Même si il y a de très grands poteaux, de très grands paratonnerres, quatre paratonnerres qui entourent le pas de tir, et qu'une fusée Apollo a pris la foudre juste après le décollage sans dommage particulier. Enfin, tout s'est éteint, mais ils ont réussi à rallumer. Mais malgré tout, évidemment, il faut quand même éviter la foudre, l'orage, etc., etc. Voilà, donc si, on va dire que si les prévisions météo pour le jour même, le lendemain du 45e escadron là, de la météo des États-Unis sont défavorables, eh bien, ça permet d'avoir une seconde possibilité le lendemain ou le surlendemain ou le jour d'après. Il peut aussi y avoir des petits soucis techniques lors des dernières phases du compte à rebours. Et quand je dis petits, c'est-à-dire ne nécessitant pas une réparation lourde qui doivent nécessiter plusieurs jours, voire, comme c'est ce qui s'est produit en février, nécessiter le retour de la fusée au pas de tir, auquel cas, évidemment, c'est pas un report le lendemain, un retour de la fusée, pardon, au hangar d'assemblage, Vehicle Assembly Building. Donc là, évidemment, c'est pas un lancement le lendemain qui est envisageable. Donc, tout ça pour dire que comme la NASA prévoit à chaque fois 4-5 dates successives sur un mois donné, eh bien, nous aussi, nous faisons en sorte que les dates du voyage englobent toutes ces dates pour maximiser nos chances de voir le lancement. Parce que si on disait, bon, bah, ok, ils ont prévu le 3, donc on va arriver le 2, on voit le lancement le 3, puis on a prévu de rentrer le 4, mais que finalement, ils prévoient de décaler le lancement au 4 et qu'on n'est plus là, évidemment, ce serait particulièrement ralent. Voilà. Donc le programme dure un peu moins d'une semaine, on va dire, c'est 7 jours de Paris à Paris, 5 jours sur place, et ça consiste à visiter le Kennedy Space Center. C'est-à-dire, le reste du temps, en fait, on va passer 2 jours principalement à visiter le Kennedy Space Center.
C'est IDFM Radio que vous écoutez et c'est l'émission À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et astronautique chaque troisième dimanche de chaque mois, 13h-14h. Le thème de cette émission aujourd'hui est Artemis 2, cap sur la Floride pour le grand retour vers la Lune, en compagnie de Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. Nous venons d'évoquer le déroulement du séjour en Floride. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour parler plus en détail de la visite du Kennedy Space Center et ce que l'on peut y découvrir. Voici Santa avec Recommence-moi.
Je préfère danser avec mes silences.
Tu danseras sur mes secondes et on commence à...
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
De retour sur IDFM Radio, vous écoutez À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie astronautique chaque troisième dimanche de chaque mois, 13h-14h. Le thème de cette émission aujourd'hui, Artemis 2, cap sur la Floride pour le grand retour vers la Lune, avec Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. Juste avant cette pause musicale, j'avais demandé à Fabrice Deltaglia comment se déroulait le séjour pour ses clients, et il nous expliquait que ensuite il y avait sur 2 jours une visite qui était prévue du Kennedy Space Center.
Qui comporte, on va dire, différentes parties. Une partie muséale ouverte au grand public, qui est très spectaculaire, là aussi, très attractive, qui est le Kennedy Space Center Visitor Complex, qui est réparti, c'est un musée à moitié dans des bâtiments et à moitié en plein air. D'abord, on est accueilli par le compte à rebours historique qui égrenait les secondes lors des lancements Apollo. Quand on rentre, on a d'abord le Rocket Garden, le jardin des fusées, où sont exposées d'authentiques fusées de toutes les époques, mais notamment plutôt des débuts des années 50 et 60 jusqu'à une fusée Saturn 1, et donc qui grandeur nature, hein, bien sûr, et avec des commentaires, des explications, etc. On a différents halls, comme le Astronaut Hall of Fame, qui présente les photos, les missions, etc., des astronautes les plus capés des programmes américains. Et puis, on va dire, le clou du Kennedy Space Center Visitor Complex, c'est le hall de la navette Atlantis, qui a vraiment une muséographie, une scénographie hollywoodienne. Vous gravissez des marches, vous rentrez dans une première salle dans laquelle on ferme les portes derrière vous, vous êtes plongé dans le noir, il y a un premier film qui vous est projeté sur, en 360 autour de vous, sur l'histoire du programme navette. Qui a démarré très tôt, hein, dès les années 60, avant même que l'homme se pose sur la Lune, alors qu'ils en étaient encore au programme Apollo, ils commençaient déjà à penser à la suite, quelle pourrait être la forme d'un véhicule réutilisable, etc., donc qui ressemble à un avion, et tout ça. Donc c'est un petit film, mais qui est déjà très intéressant, très émouvant. Ensuite, on rentre dans une deuxième salle qui projette un autre film, cette fois-ci sur l'histoire de la navette Atlantis elle-même, donc de son premier lancement, ses missions, et puis sa mise à la retraite. Son retour jusqu'en Floride et après les dernières images montrant sa mise à la retraite et son arrivée en Floride, eh bien d'immenses portes s'ouvrent et nous mettent nez à nez avec la navette Atlantis suspendue devant nous dans le noir, comme si elle était dans l'espace, dans l'immense hall qui l'abrite. Je vous assure, ça fait plusieurs fois que j'y vais, je suis toujours si ému par cette vision et puis par ce talent de scénographie des Américains. On est vraiment Hollywood, sauf que c'est du vrai, quoi. C'est pas Star Wars, hein. C'est vraiment la navette Atlantis qui est allée de très nombreuses fois dans l'espace. Voilà. Donc ça, c'est l'un des clous. L'autre, on va dire clou, c'est une vraie fusée Saturn V qui est exposée à l'horizontale, pas debout, donc sur lequel on déambule sous la fusée, sur lequel on peut ressentir le gigantisme, la puissance de cet appareil incroyable. Et c'est à proximité d'ailleurs du hall qui préserve cette fusée Saturn V que se trouve le site d'observation depuis lequel on voit les lancements donc du programme Artemis. Bref, il y a beaucoup de choses à voir sur le site du Kennedy Space Center, à la fois muséaux mais aussi réellement en activité, c'est-à-dire les pas de tir utilisés. Le véhicule Assembly Building, donc le fameux hangar entre guillemets dans lequel la fusée Artemis, mais auparavant les navettes spatiales où la fusée Saturn V était montée, assemblée, avant d'être amenée sur leur pas de tir sur les énormes crawlers, des appareils, machines gigantesques avec sans doute les moteurs terrestres les plus puissants qu'on ait jamais construits. Il y en a deux engins, hein, qui sont toujours les mêmes depuis les années 60. Voilà, donc tout ça, il y a beaucoup de choses à voir et à faire, des simulations de décollage de navettes, etc., ou d'atterrissage. Donc ça prend 2 jours complets de visiter le Kennedy Space Center, et ensuite on profite de 2 journées libres pour profiter un peu plus de la Floride, d'Orlando, de Cocoa Beach, de l'océan, etc.
Et après la visite du Kennedy Space Center et ses deux journées libres, Fabrice Deltaglia, vient le grand moment.
Alors, c'est pas après, non. C'est en réalité, théoriquement, au début. Pourquoi ? Parce que précisément, on arrive le jour donné, c'est le lendemain, on arrive théoriquement la veille du jour prévu pour le lancement. Puisque justement, l'idée, c'est d'avoir un plan B si c'était reporté au lendemain, un plan C, un plan D, etc. Donc, en définitive, on commence un peu par le point fort pour ensuite continuer par les visites, ou plus exactement, le premier jour, on fait le début de la visite du Kennedy Space Center et le soir, on a le lancement, puisque à l'heure actuelle, les lancements d'Artemis sont tous prévus plutôt en début de soirée, vers 20h pour la plupart, enfin 20h, 22h. Donc, on va dire le premier jour, on visite le Kennedy Space Center, on a le lancement le soir, on revient le lendemain pour continuer la visite du Kennedy Space Center, et ensuite, on a des journées libres pour découvrir Orlando et la Floride. Voilà, ça c'est si le lancement se passe bien le premier jour, enfin le lendemain de notre arrivée. S'il est décalé le lendemain, ben on commence par la visite du Kennedy Space Center, on a le lancement, etc., etc. Voilà. C'est pour ça qu'on met le lancement plutôt au début pour justement avoir les plans de secours derrière.
C'est plus prudent, en effet. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu de lancement spatial de sa vie, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire pour lui transmettre cette envie, presque ce frisson qu'on peut ressentir dans votre description ?
Écoutez, j'ai essayé de le transmettre dans la description, simplement. D'abord, là, j'ai décrit tout ce qu'il y a de positif. Après, il faut d'abord être conscient d'une chose, c'est que ça reste très incertain. Très incertain quand on s'inscrit sur le voyage, qu'il puisse partir à la date prévue. Là, nos participants, ça fait déjà deux fois qu'on reporte la date du voyage. Le lancement devait initialement avoir lieu début février. Puis le test, le wet dress rehearsal, c'est-à-dire la répétition générale, entre guillemets, dont le point d'orgue et le remplissage des réservoirs a connu un problème qui a dû renvoyer la répétition s'est interrompue 5 minutes avant son terme. Donc le lancement a été annulé, enfin, du moins les dates de début février n'ont pas été confirmées, ça a été renvoyé à début mars, puis alors qu'une nouvelle répétition générale s'était bien passée, on a découvert ensuite un problème sur l'alimentation de la fusée en hélium qui permet de maintenir les conditions favorables au maintien en température de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Donc le lancement début mars a aussi été annulé, entre guillemets, pour être reporté à on ne sait pas quand, potentiellement début avril. On saura peut-être dans quelques jours si la NASA confirme viser toujours début avril ou pas. Bref, tout ça, faut avoir de la souplesse. Si on veut assister à un lancement de fusée, il faut être souple dans son emploi du temps. Ou alors, il faut admettre que on va peut-être s'inscrire et puis devoir ne pas suivre les modifications de date et devoir annuler son voyage. Idéalement, faut être souple. C'est vrai que quand on est retraité ou quand on est indépendant et qu'on a toute liberté dans son emploi du temps, c'est un peu plus facile que si on est salarié et qu'on a posé des congés. Ça, c'est vrai pour assister à un lancement. Voilà. Les gens qui avancent sur ce type de voyage savent cela parce que la plupart du temps, c'est des passionnés ou des gens très curieux qui ont suivi il est très fréquent que les lancements, surtout aussi importants que celui-là, surtout avec des astronautes, surtout avec une nouvelle fusée, qui ne sera que le deuxième vol, que tout ça n'est pas encore totalement rodé, que le moindre risque occasionne un report ou des vérifications. Donc les clients, les voyageurs sont conscients de cette incertitude, l'acceptent, bon gré mal gré, même si on espère toujours qu'elle ne va pas survenir. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas s'inscrire à ce type de voyage en se disant « je suis inscrit, je vais donc voir le lancement », et en fortiori à cette date-là. Voilà. Et après, bien sûr, là, pour donner envie, une fois de plus, c'est assez rare de pouvoir se dire dans le cadre d'un voyage qu'on est présent lors d'un événement historique. Or, en ce qui concerne Artemis 2, et puis également Artemis 3 et surtout Artemis 4, qui renverra normalement des astronautes se poser sur la Lune cette fois-ci, on sera dans une page d'histoire et on le ressent au moment où on est présent. Donc le spectacle est présent, et puis l'histoire, on va dire, de la conquête spatiale, voilà, on la vit en vrai et pas devant sa télé. Il y a pas je sais pas si on ressent pas la chaleur de la fusée. On est à 5 km, c'est peut-être un peu exagéré. En revanche, bien sûr, on ressent très fortement les vibrations qui arrivent longtemps après le décollage, bien sûr, hein, parce que la distance fait que le son lui-même arrive alors que la fusée est déjà haute. Le son du moment du décollage arrive alors que la fusée est déjà assez haute. Les vibrations dans tout son corps, c'est une expérience physique aussi, évidemment, pas que visuelle. Et tout ça, bien sûr, à la télé, Internet, etc., ne peut pas le traduire, hein, ni de loin, quoi. Voilà. Donc, on vit une expérience physique, on fait partie de l'histoire. On est très privilégié aussi, hein, parce que très, très peu de gens peuvent assister au lancement d'aussi près. Il y a extrêmement peu de place, hein. C'est une des valeurs ajoutées qu'on apporte, d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est la possibilité de. Il y a 100 fois plus de gens qui voudraient y assister que de place, hein. Quand la NASA a mis enfin, le Kennedy Space Center, plus exactement, a mis en vente les places pour assister au lancement depuis le site d'observation le plus proche, la Banana Creek Launch Viewing Area, en fait, en quelques secondes, toutes les places étaient vendues. Vous allez me dire comment ça se fait que vous avez pu en acheter tant. En fait, moi, je les avais achetés plusieurs jours avant par un autre canal. Tout simplement, sinon, effectivement, les ventes au grand public, c'est un concert de Taylor Swift, quoi, si vous voulez, ou de Madonna, ou de. Voilà. Ça part en quelques secondes. Il y a probablement 100 fois plus de demandeurs que de places. Voilà. Donc, on est extrêmement privilégié. Et c'est unique et c'est fort physiquement et symboliquement.
C'est l'émission À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel consacré à l'astronomie et l'astronautique, chaque troisième dimanche de chaque mois, 13h-14h sur IDFM Radio. Je vous rappelle que le thème de cette émission du mois de mars est Artemis 2, cap sur la Floride pour le plus grand retour vers la Lune, avec Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. On fait une nouvelle pause musicale et juste après, nous parlerons du regard de celles et ceux qui ont déjà vécu ce type d'aventure sur le terrain à travers le témoignage d'un voyageur parti assister à un autre lancement. Voici Fragma avec Tokas Miracle.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
De retour sur IDFM Radio, vous écoutez À toi les étoiles, votre rendez-vous d'astronomie et astronautique chaque troisième dimanche du mois de 13h à 14h. Aujourd'hui, cette émission a pour thème Artemis 2, cap sur la Floride pour le grand retour vers la Lune avec Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. Fabrice Deltaglia, sachez que j'ai reçu le témoignage de l'un de vos voyageurs, qui n'est autre que Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain de cette émission À toi les étoiles. Voici son témoignage. Je garde un très beau souvenir d'un voyage effectué en 2019 sur les pas de Youri Gagarin à Moscou, à la Cité des Étoiles, avec Fabrice Deltaglia, en compagnie notamment de Jean-Pierre Ignoré. C'était un voyage de grande qualité, très bien organisé, avec la découverte de lieux prestigieux, parfois même inédits, et une excellente ambiance tout au long du séjour. Le fait d'avoir un astronaute avec nous pendant toute cette aventure donnait évidemment une dimension toute particulière à ce voyage, à la fois passionnante, humaine et inoubliable.
Ben oui, je remercie Jean-François qui nous avait fait le plaisir et l'honneur de participer à ce premier départ, en toute modestie d'ailleurs. C'était pas du tout fait connaître comme tel, comme expert. Et puis il était très très heureux et très admiratif effectivement d'y être avec Jean-Pierre Niret. C'était le tout premier de nos voyages spatiaux, le tout premier voyage, le tout premier départ du tout premier voyage. Qu'on a fait partir plusieurs fois, mais assez peu par rapport à son potentiel, parce que malheureusement, peu après, on a eu le Covid, puis la guerre, l'invasion de l'Ukraine. Donc évidemment, ce voyage n'existe plus, enfin, il est encore en ligne sur notre site symboliquement, mais il n'a plus de date depuis 2020. Et effectivement, ce voyage, alors, pour l'anecdote, d'abord, c'était le premier dans tous les sens du terme, parce que c'était presque la copie de celui que j'ai fait moi-même, enfant, donc, à 11 ans, en avril 1980, où j'étais également parti, donc une semaine basée à Moscou, à l'hôtel Cosmos, et j'avais repris le même hôtel Cosmos pour le symbole et aussi pour la localisation pour notre voyage en 2019, avec presque le même programme de visite, c'est-à-dire Kalouga, la petite ville où a habité Konstantin Tsiolkovsky, qui est en quelque sorte le fondateur de l'astronautique sérieuse, scientifique, c'est-à-dire que alors, et qui est un personnage, un instituteur en fait, hein, c'est un scientifique autodidacte en quelque sorte, qui à la fin du 19e siècle, au début du 20e, a été le premier à théoriser de façon vraiment sérieuse comment on irait dans l'espace à l'aide de fusées et de fusées à plusieurs étages. Auparavant, il y avait bien sûr des débuts d'approche de comment on irait dans l'espace et sur la Lune, avec par exemple Jules Verne, mais on voit bien que même s'il y a des choses assez frappantes, le fait que par exemple la capsule de Jules Verne est envoyée depuis la Floride, depuis un endroit qui est quand même assez proche du Kennedy Space Center actuel, donc ça on pourrait se dire que c'est une qualité de déduction qui était sérieuse, hein, c'est pas un hasard, hein, de Jules Verne qui est assez extraordinaire. Par contre, la manière d'envoyer des hommes sur la Lune, hein, avec un canon qui envoie une capsule qui ressemble plutôt à une ogive. Ça, par contre, ça n'avait rien de scientifique. Alors que donc peu après, Tsiolkovsky a posé les bases de l'astronautique. Il a d'ailleurs sa photo dans l'ISS, dans la partie russe évidemment de l'ISS, aux côtés de Korolev, le maître d'œuvre du programme spatial soviétique. Donc voilà, donc à Kalouga, on visite sa maison dans laquelle il a imaginé toute cette mécanique d'astronautique. Il a construit des maquettes, etc. Et puis on visite le musée de l'espace de Kalouga, qui a pour particularité, entre autres, d'être le plus ancien musée consacré à l'espace au monde. Il a été inauguré par Gagarine au milieu des années 60. Et j'ai eu l'étonnement de le voir presque inchangé entre ma visite en 1980 et ma visite en 2019 ou en 2020 d'ailleurs, en dehors du fait qu'ils ont parfois poussé un peu certaines capsules pour faire de la place à d'autres, mais bon, comme globalement les Russes envoient toujours des Soyouz, même s'il y a différents modèles depuis, mais ça n'a pas beaucoup changé. Le musée est resté presque identique, avec presque la même disposition partout. C'est assez incroyable. Donc en Russie, c'est vrai qu'on faisait un voyage dans l'espace, entre guillemets, un voyage géographique d'aller en Russie, mais on faisait aussi vraiment un voyage dans le temps, parce que beaucoup de choses sont restées dans leur jus, et c'est un sentiment très différent de quand on va aux États-Unis, mais très très fort également. Et puis le clou évidemment du voyage, c'était comme pour moi en 1980, la visite de la Cité des Étoiles, qui est certes moins mystérieuse qu'à l'époque. Enfin, qui n'est pas non plus, c'est pas un truc où vous prenez votre billet à l'entrée comme au Kennedy Space Center. Ça reste un site exclusivement professionnel dans lequel il est possible de demander l'autorisation de visiter, en s'y prenant longtemps à l'avance, en envoyant toutes les informations sur les participants sur place à la Cité des Étoiles, qui fait étudier la liste des passagers par les services secrets russes, bien sûr, parce qu'ils veulent éviter l'espionnage. Mais étonnamment, malgré toutes ces précautions, une fois qu'on est à l'intérieur, bah, en fait, on est dans un site professionnel où on se balade presque librement, en tout cas où on va vraiment là où les astronautes s'entraînent. Et avec Jean-Pierre en plus, donc Jean-Pierre Aigneret, qui a vécu, habité, travaillé très longtemps, parce qu'il a effectué deux missions. Donc, il pouvait nous raconter toutes les anecdotes de sa vie à la Cité des Étoiles, où il a rencontré celle qui deviendra sa femme, Claudie André-Day, qui est aujourd'hui devenue Claudie Aigneret, bien connue des Français pour être à la fois la première femme française, la première astronaute française, et puis ministre plus tard. Donc c'est vrai que visiter la Cité des Étoiles en compagnie de Jean-Pierre Aigneret, qui explique où il habitait, qui explique quand on va voir l'immense centrifugeuse, ce qu'on ressent à bord de la centrifugeuse, quand on va voir là où les astronautes essaient leur scaphandre Orlan pour les sorties extravéhiculaires, donc les sorties à l'extérieur de l'ISS aujourd'hui pour aller dans l'espace. On croise des astronautes à l'entraînement. Grâce à l'entremise de Jean-Pierre, certains d'entre nous, mon fils de 4 ans par exemple à l'époque, et Jean-François aussi, je crois, ont pu monter à bord de la capsule d'entraînement des astronautes, celle dont ils se servent vraiment pour s'entraîner, hein. qui décolle pas, mais celle qui simule les missions. Voilà, on est là aussi extrêmement privilégié. Particularité de nos voyages sur l'espace, comme beaucoup de nos autres voyages, c'est que la valeur ajoutée, elle est aussi dans l'accompagnement, dans le caractère exclusif des visites. Et bah là, typiquement, on y est, c'est-à-dire évidemment à titre personnel, si vous voulez vous être accompagné par un astronaute, bon, c'est difficilement envisageable, à moins d'être vous-même un ami personnel d'un des rares astronautes français ou un astronaute russe. Rentrer à la Cité des Étoiles à titre individuel, c'est pas possible, tout simplement, etc., etc. Voilà, donc on apporte plus qu'une valeur ajoutée, c'est ça ou rien. D'où le fait qu'effectivement les passionnés étaient très intéressés par notre voyage. Et effectivement. Oui, je comprends le témoignage de Jean-François Pellerin, que je remercie.
On en revient à Artemis 2 et on croise les doigts pour que le lancement ait lieu prochainement et que vous puissiez, avec toutes les personnes qui vous accompagnent, y assister. Pour conclure, Fabrice Deltaglia, si vous deviez résumer Artemis 2 en une image ou en une phrase, quelle serait-elle?
Eh bien, plus de 50 ans après, le retour de l'homme autour de la Lune. Et pas seulement de l'homme, mais la première femme qui quittera l'orbite terrestre pour voler autour de la Lune, Christina Koch, le premier Afro-Américain aussi à quitter l'orbite terrestre pour l'orbite lunaire, Glover, le premier Canadien également. Enfin, il y a beaucoup de et la mission qui emmènera les hommes le plus loin qu'ils ne sont jamais allés. Bref, il y a un grand nombre de premières qui seront réalisées sur la mission Artemis 2, qui sera à tous égards historique.
Et puis on peut donner les coordonnées de Nomade Aventure pour les personnes qui seraient intéressées pour participer à ce genre d'aventure. Alors je suppose que pour Artemis 2 c'est trop tard, mais pour le futur.
Bon, alors, effectivement, là, le voyage est malheureusement complet, mais que les auditeurs n'hésitent pas à nous envoyer un mail ou à s'inscrire à l'alerte sur la page du voyage. Donc, notre site, c'est www.nomade au singulier, trait d'union, aventure au singulier.com. Et ensuite, dans la navigation, vous pouvez aller dans les thématiques, astronomie et espace, et là, vous verrez le voyage consacré au programme Artemis s'intitule Back to the Moon. Il restera en ligne même après le lancement d'Artemis 2, puisque c'est le voyage consacré au lancement du programme Artemis. Donc, c'était celui d'Artemis 1, d'Artemis 2. Artemis 3, l'année prochaine, devrait normalement correspondre à l'essai pour la première fois d'arrimage en orbite terrestre de la capsule Orion avec un futur atterrisseur lunaire. Et Artemis 4, si tout va bien en 2028, la première mission à tenter de se poser sur la Lune. Donc effectivement, il est prudent de s'enregistrer, de manifester son intérêt pour pouvoir être recontacté parce que bah voilà, c'est première arrivée, première servie. On n'a pas forcément assez de place pour tout le monde.
Merci beaucoup Fabrice Deltaglia d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'émission À toi les étoiles.
Merci Franck, merci aux auditeurs.
Et merci également à vous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le dimanche 19 avril, et si, comme nous l'espérons, Artemis 2 décolle bien au début du mois d'avril, nous en reparlerons avec le parrain de l'émission, Jean-François Pellerin, pour en faire le débriefing. Et si le calendrier devait encore évoluer, eh bien, l'univers nous soufflera un autre sujet. Merci à toutes et à tous, passez un bon dimanche et n'oubliez pas, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.